Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie.
Bonsoir Thomas, salut les curieux. Toujours votre petite écharpe Thomas.
Oui, je protège ma voix, j'ai vu qu'il neigeait en montagne cette nuit, donc c'est pour ça.
On est ensemble jusqu'à 22h. En pleine santé sur RTL et on attend vos réactions au 3210 sur RTL.fr bien
pour
entendu
voir
et pour voir l'écharpe et sur Twitter peut-être pour voir l'écharpe si on fait une photo avec le hashtag la curiosité RTL.
Le ministre de l'économie vient de lancer une réforme des prud'hommes, mais justement comment ça se passe quand on se retrouve face à son patron? On va vous faire découvrir les coulisses des prud'hommes avec leur drame et puis parfois aussi leur fou rire.
Paris est-elle encore la reine de la gastronomie? On va pousser ensemble la porte des restaurants et des bistrots qui maintiennent les esprit et la réputation de la capitale française.
Et puis tout de suite, un thème qui nous tient à cœur parce que on aime bien ici lutter contre les idées reçues et c'est pour cela qu'on a voulu vous parler ce soir des requins. Les requins mangeurs d'hommes, évidemment, on en a tous très peur depuis ça.
RTL.
Chef Brody, vous êtes crispé.
La curiosité est un vilain défaut.
Pépette, viens vite, Pépette. Pépette, viens vite, Pépette.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce qui est arrivé, Alex?
Alex, il a mal fini dans les dents de la mer, évidemment. Bonsoir, Robert Calcagno.
Bonsoir, Thomas.
Bienvenue, vous êtes directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. C'est à cause du cinéma, des dents de la mer, mais aussi de la télévision que les requins ont une aussi mauvaise image, sont les mal-aimés des océans?
Oh, absolument, je crois que ça a beaucoup joué. Maintenant, c'est encore plus ancien parce que requin, je crois que ça vient de requiem. Alors, vous imaginez.
Donc, l'image et l'idée de la mort a toujours été associée aux requins. Ils sont dangereux quand même, certaines espèces.
Oui. Il y a 500 espèces de requins. Seulement 5 sont dangereuses, mais c'est déjà beaucoup.
Lesquelles?
Et les grands requins blancs, bien entendu, les requins tigres, les requins bulldogs, certains requins océaniques aussi. Voilà les requins les plus dangereux. Les requins provoquent moins d'une dizaine de morts par an. Alors, 10 morts, c'est déjà trop.
Bien sûr.
Il faut les comparer avec 50 morts provoquées par les méduses, 100 000 par les serpents. Et si on prend le petit moustique, qui lui provoque 800 000 décès par an à cause de la malaria, bien sûr.
Évidemment, c'est la dimension de la planète, ça.
Est-ce que tous les requins sont carnivores?
Alors oui, ça, les requins sont, ils aiment bien manger leurs confrères, les poissons.
Et donc,
c'est des top prédateurs.
Intéressés par nous aussi, alors?
Oui, je crois que, enfin, ils préfèrent les petits poissons qu'ils connaissent bien. Quand ils voient un gros humain se déplacer, qu'ils reconnaissent pas trop ce que c'est, en général, ils se méfient.
Est-ce que ça vit longtemps, un requin?
Oui. Les requins, ça vit très longtemps. Ça peut vivre plusieurs dizaines d'années. C'est même une spécificité. Ils vivent très longtemps. Ils se reproduisent peu. Souvent, ils peuvent avoir une gestation de plusieurs mois. Ils ne font qu'un, deux, trois petits. Ça dépend des espèces, hein. Ce qui fait que ces grands prédateurs sont en fait très fragiles. Et quand ils sont chassés par l'homme, leur population diminue.
Robert Calcagno, ces attaques de requins, pourquoi les médias en parlent-ils de plus en plus en ce moment, depuis quelques mois?
Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est inacceptable par l'homme, c'est de se faire dévorer.
Bien sûr.
En plus, par
peur-là, elle date pas seulement du film de Steven Spielberg.
Exactement, elle est profondément entre nous. En plus, se faire dévorer par quelque chose qu'on ne voit pas, c'est encore pire que se faire dévorer par un lion, quasiment. Et donc, il y a tout un mythe autour du requin. Se faire piquer par une méduse ou par un scorpion, c'est finalement beaucoup plus dangereux, mais dans l'imaginaire, dans l'inconscient, on le craint moins.
Mais est-ce qu'il y a, oui ou non, plus d'accidents, plus d'attaques de requins?
Alors, l'homme va beaucoup plus dans la mer. Aujourd'hui, les baigneurs, les surfeurs, les plongeurs sont beaucoup plus souvent dans l'eau. Donc, je crois qu'il y a plus d'attaques de requins, effectivement. Il y a vraisemblablement aussi un autre phénomène, c'est que les requins trouvent moins à manger, en haute mer, et donc ils viennent souvent, quelquefois, marauder à proximité du littoral.
C'est presque à cause de nous qu'ils s'approchent et qu'on se fait dévorer. Disons que c'est...
On
les attire quasiment.
Effectivement, l'humanité participe à une espèce de cercle vicieux avec les requins, où c'est une information objective. Il y a de moins en moins de requins dans la mer, mais ces requins sont de plus en plus en rencontre, quelquefois inamicale, avec l'homme.
Pour lutter contre ces idées reçues, vous avez créé une exposition au musée océanographique de Monaco. Comment réagissent les jeunes visiteurs ?
Je crois qu'il y a quelque chose. Nous avons essayé de réconcilier l'homme et le requin. Bien sûr, on explique, on va dire un peu ce qu'on échange ce soir, mais on a un endroit que nous appelons le bassin de la réconciliation, où les jeunes peuvent caresser un requin, en fait. Pas tous osent. On voit les enfants, ça leur pose aucun problème. Mais les gens de la génération des dents de la mer, ils hésitent beaucoup avant de mettre la main dans le bassin.
On peut comprendre ça. Les requins sont moins dangereux que les méduses, vous nous le disiez. Et pourtant, ils nous fascinent, ils nous intriguent, ils nous font peur. Ce sont des chasseurs qui ne dorment jamais ou presque, vous allez nous l'expliquer, mais dont la mâchoire est trois fois plus puissante pour certains que celle des crocodiles. On vous dit tout sur les squales et leur mauvaise image dans un instant sur RTL.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
Parmi les 480 espèces de requins, la moitié fait moins d'un mètre.
La curiosité est un vilain défaut.
21% des requins marteaux n'ont pas de boîte à outils.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
En tout cas, apparemment, les requins ne font pas peur à Jean-Jacques Perroni, l'un des sociétaires des grosses têtes, qu'on écoute sur RTL, bien sûr, de 16h à 18h. En tout cas, saviez-vous que les requins existaient déjà au temps des dinosaures et que seules 6 espèces sur 500 sont dangereuses pour l'homme? On ne sait pas lesquelles ont des boîtes à outils, on le saura peut-être dans quelques instants, grâce à Robert Calgagno, directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Vous avez déjà plongé au milieu des requins?
Oui, c'est une impression tout à fait extraordinaire de plonger au milieu des requins. Alors, on sent une puissance formidable, on sent que c'est un animal qui peut nous croquer, puissance extraordinaire, mais en même temps, il ne nous regarde pas, et si on reste tranquille et qu'on fait attention, le requin passe à côté, et il y a finalement, c'est très paisible d'aller nager avec les requins. C'est
ça,
curieux.
Le conseil, ne pas bouger à côté d'un requin.
Non, je crois que le requin ne va vous attaquer que s'il vous considère comme une proie. Il n'a pas tellement l'habitude de voir des hommes, donc il est un peu inquiet. Il est sûr que si vous essayez de fuir ou de vous agiter de façon désordonnée, le requin va se dire c'est bon, ça c'est bon à manger. Maintenant, si vous restez tranquillement en train de le regarder, le requin va plutôt être inquiet.
Conseil pas facile à appliquer quand
même. Oui, c'est vrai que la première fois, j'avais le cœur qui battait quand même plus fort.
Dans votre livre « Requin au-delà du malentendu » publié aux éditions du Rocher, il y a une photo très étonnante d'un plongeur qui manipule un squale. Donc le squale est posé, on dirait, sur le bout de son doigt. Comme ça, il a l'air complètement endormi. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, Sidonie, c'était un squale qui avait une boîte à outils. En fait, il avait un détecteur de champ électromagnétique, comme les squales. On appelle ça des ampoules de Lorenzini. C'est des détecteurs de champs électromagnétiques qu'ils ont sur le bout du museau. Un super sens, en quelque sorte. Et quand un plongeur l'approche et frotte un gant métallique sur le museau, ça perturbe les sens du requin et il rentre en catalepsie. Il ne sait plus ce qui se passe. Et donc, il devient immobile. Et à ce moment-là, le plongeur peut le manipuler. Bon, il faut pas faire ça quand on rencontre un requin, quand même,
vous n'avez pas l'habitude.
Oui, il faut être un spécialiste. D'ailleurs, cette scène, elle est dans le roman Plongée de Christophe Onodibio. C'est un roman magnifique. En passant, est-ce que c'est vrai que les requins ne dorment jamais?
C'est vrai que les requins ne dorment jamais. En fait, la plupart sont obligés de bouger, de nager pour respirer. La plupart des poissons ferment et ouvrent la bouche, la gueule, pour faire circuler de l'eau sur leurs branchies, alors que le requin ne sait pas faire ça, et il a besoin de nager constamment pour respirer. Ce qu'on pense, mais c'est très difficile à savoir, c'est qu'il met au repos en fait une moitié du cerveau quand il nage. Il n'est pas capable en fait de se défendre ou de chasser, mais il est dans une nage semi-automatique. Mais
une
il ne dort pas.
Une espèce de demi-sommeil en fait.
Exactement.
En quelque sorte.
Une moitié de cerveau qui dort et l'autre qui est active.
Alors on essaye de ne pas tomber dans les clichés, donc de ne pas en en faire les diables des océans, ne sont pas non plus des anges, hein, les requins. C'est quoi d'abord ? C'est d'abord un chasseur, un requin ?
Oui, le requin, c'est un chasseur, c'est un top prédateur. C'est là d'ailleurs toute son utilité pour les océans, parce qu'il est tout en haut. C'est un peu une pierre, une cornerstone, une pierre de voûte, une clé de voûte des écosystèmes marins. Il va, quand il y a des poissons en dessous qui deviennent trop nombreuses, le requin va les chasser. Quand il y a des malades, il va le manger, ce qui empêche les virus en fait de se disséminer trop fort.
Alors, si on fait les qualités du chasseur, c'est quoi la vitesse ?
Absolument. Un requin, certains sont capables de nager à 50 km sous l'eau. C'est très impressionnant.
Ils sont très endurants aussi.
Ils sont très endurants. En fait, les requins ont 7 sens. Nous en avons 5. Les yeux, l'odorat, le toucher, enfin vous les connaissez. Je parlais des ampoules de Lorenzini. Et ils ont aussi une ligne latérale sur le côté du corps qui leur permet de ressentir les vibrations. Et c'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, se débat dans l'eau, alors ça, ils vont le sentir à 500 mètres de distance et se rapprocher pour voir ce qui se passe.
Un peu comme un sonar d'une certaine
Exactement.
Façon.
Exactement, ils ressentent les vibrations.
Et vous disiez sentir l'odorat.
Alors l'odorat, vous le savez, est très développé chez le requin. Certains requins s'appellent des chiens des mers. Vous comprenez pourquoi.
Ils ont beaucoup de dents, les requins aussi, qui font très peur, hein, souvent dans la... Ils ont combien de dents, ces requins ?
Alors, les requins peuvent avoir une centaine de dents. Ce qui est intéressant, c'est que les dents se remplacent tout au long de la vie du requin. Quand elle est émoussée, la dent tombe, et il y a une autre qui vient la remplacer. Sinon, les requins sont aussi immobilisés par une mâchoire qui a une force absolument effrayante. Chez un grand requin blanc, c'est 3 tonnes par centimètre carré. Pour broyer un doigt, il suffit de 2 ou 3 kilos par centimètre carré. Alors vous voyez ce que le requin blanc est capable de faire.
Et on a tous en tête l'image de ces mâchoires de requin. On a l'impression que ça s'ouvre, ça s'arrête jamais de s'ouvrir.
Exactement.
Quoi. Donc, c'est une particularité.
En fait, la mâchoire n'est pas... Le requin est un poisson cartilagineux. Il n'a pas de squelette, d'eau dure. Et en particulier, la mâchoire n'est pas accrochée au crâne. Donc en fait, quand elle s'ouvre, elle est capable, un peu comme Alien, de sortir pour attraper sa proie.
Bon, quand même, quand on parle des requins, on n'a pas des images
pas
forcément
moi,
très sympathiques qui nous viennent. Mais venez quand même plonger avec nous au milieu des requins. Vous allez voir, c'est sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est l'ennemi public numéro 1 dans les océans, un peu partout sur la planète. Mais le requin mérite-t-il cette sale image qui a été évidemment popularisée par le film Les Dents de la Mer de Spielberg? Robert Calcagno, vous êtes le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Tiens, petite question qui nous est venue pendant la coupure. On le sent. Est-ce que effectivement ça attire les requins?
Et oui, le sang, ça attire les requins. Le requin est un prédateur carnivore, c'est clair. Et il va se nourrir de poissons, et si possible, comme il est plutôt paresseux, de poissons blessés qui nagent un peu moins vite que les autres, qui ne sont pas dans l'amas de poissons. Donc, il est attiré par le sang, c'est clair.
Quand vous dites ça, je me sens visé. Est-ce que j'ai une tête de poisson blessé?
Bon, non, Thomas.
Écoutez, merci. Si vous saignez, c'est vrai qu'il vaut mieux sortir de l'eau.
J'ai
quand
vu
même
peu de poissons blessés qu'une écharpe comme ça, bleue à rayures. Mais bon,
c'est vrai. Ça ne se fait pas, ils ne sont pas encore à la mode.
Non, pas encore.
Bon, on parle du requin, évidemment, qui nous fait peur, mais en partie à juste titre, parce que c'est un chasseur. Mais le vrai prédateur du requin, c'est qui ?
Le vrai prédateur, le seul prédateur aujourd'hui, c'est l'homme. Plus de 100 millions de requins sont pêchés chaque année par l'homme. Alors, tout à l'heure, on indiquait que les requins tuaient 10 personnes par an. C'est 100 millions de requins qui sont pêchés tous les ans, dont les plus des deux tiers, 68 millions à peu près, sont pêchés uniquement pour l'aileron de requin, pour la fameuse soupe d'aileron de requin qui est consommée en Asie.
Mais qu'est-ce qu'elle a, cette soupe, d'ailleurs, d'aileron de requin ?
Oh, elle a rien de particulier. J'ai été amené, obligé à en manger une fois dans un dîner officiel avec le président Hu Jintao en Chine. Donc il ne s'agissait pas de faire un incident diplomatique. Et nous en avons mangé, c'est pas super. C'était un plat qui était réservé pour l'empereur dans le temps. Et du temps du communisme, sous Mao, il était interdit d'en consommer. Donc quand à la fois l'interdiction s'est levée et la richesse est venue, c'est un mets en fait de luxe, et quand on veut honorer son invité, on lui sert de la soupe d'aileron de requin. Alors on travaille beaucoup, notamment avec un partenaire chinois, avec des artistes, avec le basketteur Yao Ming, avec l'actrice Maggie Q, pour faire passer le message que vraiment la soupe d'aileron de requin, c'est has-been, c'est très mauvais pour les océans, et la consommation d'aileron de requin a chuté de 35% l'an dernier en Chine. Donc un très bon espoir de
le
ce côté-là.
En train de passer.
C'est ça qu'on appelle le shark finning.
Oui, le shark finning. Ouais. Alors c'est le fait de quand un chalutier prend des requins, il en prend des milliers, il n'a pas la place de garder le corps du requin, donc il va garder ce qui est le plus précieux, l'aileron, jusqu'à $700 le kilo sur le marché de Hong Kong, et il va découper tous les ailerons, le dos, la nageoire, les ailerons ventrales du requin, et rejeter le requin agonissant dans les océans. Alors c'est vraiment cruel comme pratique, et puis c'est totalement stupide. L'humanité a besoin de protéines, a besoin de se nourrir, les océans fournissent des protéines, mais en gaspiller 90%, c'est incompréhensible. Mais
pour bien comprendre, ça veut dire que en fait, ces chalutiers ne cherchent pas à pêcher ces requins, ils les attrapent par hasard.
Certains vont chercher à pêcher le requin, mais juste pour leur prendre les ailerons.
Vous, Thomas, vous avez goûté du requin, vous m'avez dit.
Moi, j'ai goûté du requin. Pour un reportage, j'étais allé pêcher du requin au large du bassin d'Arcachon. Ça n'a pas beaucoup de goût, en fait. Hein. La sauce était meilleure que le requin. Mais est-ce que j'ai pris un risque en mangeant du requin?
Alors,
parce qu'il est au bout de la chaîne alimentaire dans l'océan, quand même.
Vous, non. Et je crois que tous nos auditeurs en ont déjà mangé. La saumonette, c'est du requin. Quand
vous allez passer un
week-end à Londres...
Sur les étals des poissonniers,
bien sûr.
La saumonette, c'est du requin.
La saumonette, c'est du requin. Quand vous allez passer un week-end à Londres et que vous vous régalez avec un fish and chip, dans 75% des cas, c'est du requin.
Bon, et alors je repose la question, est-ce qu'on prend un risque en mangeant du requin?
Il y a deux types de risques. Ce que vous indiquez, c'est vrai que le requin qui est tout en haut mange des poissons qui sont au milieu, qui eux-mêmes mangent des plus petits poissons, qui mangent des poissons herbivores, et tout ça, ça accumule les toxines, ça accumule les métaux lourds. Donc c'est vrai que dans le requin, il y a beaucoup plus de métaux lourds que dans une sardine ou un anchois. Il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux dans les tropiques, c'est la ciguatera. C'est une toxine qui se trouve dans les algues. Si vous mangez l'algue, vous n'avez rien du tout. Mais si cette toxine est accumulée dans la chair du requin, elle peut vous tuer.
Les squales sont en danger d'extinction, on l'a compris. Pourtant, c'est l'une des espèces animales les plus anciennes. Leur ancêtre est apparu il y a des dizaines de millions d'années. Les requins plus forts que les dinosaures. Pour vous raconter cette histoire, on remonte dans le temps sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Le requin est présent dans toutes les mers du globe, y compris notre Atlantique et la Méditerranée. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est sans conteste le grand requin blanc, qui est popularisé, vous le savez, par le film Les Dents de la Mer.
La curiosité est un vilain défaut.
Songez qu'il s'est produit en un an à La Réunion, pas moins de 6 attaques de requins, dont 2 malheureusement ont été mortelles.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, le requin fait peur, et le requin blanc notamment, mais il n'y a pas tant de morts que ça finalement. La méduse, on l'a appris, est beaucoup plus dangereuse, mais bon, évidemment, il faut rester absolument prudent. On parle des requins ce soir avec Robert Calgagno, directeur général de l'Institut océanographique de Monaco, qui publie « Requins au-delà du malentendu » pour les réhabiliter un peu, c'est aux éditions du Rocher. Le requin, on le trouve dans quels produits du quotidien? Parce que ça sert évidemment à se nourrir, il y a les soupes d'aileron, il y a la saumonette, mais on le trouve aussi, paraît-il, dans les cosmétiques, ça m'a un peu effrayée.
C'est vrai que le requin est à peu près utilisé pour beaucoup d'emplois, les cosmétiques. Le foie du requin est très utilisé et a... selon certains mythes, des propriétés qui sont bonnes pour la santé. On en trouve également dans la peau du requin, est utilisée, ça s'appelle le galucha. Quelquefois, il y a de la maroquinerie de luxe qui utilise le galucha. Dans le temps, la peau du requin était utilisée comme toilette, en fait. D'un côté, elle est très douce, et de l'autre, elle est très râpeuse, donc c'était utilisé pour frotter le bois, par exemple.
Robert Calgagno, dans ce livre que vous publiez, on vous voit plonger avec le prince Albert. C'est un bon plongeur ?
Bon, c'est un excellent plongeur. Il adore ça. Et ça fait partie de sa conviction de protection de l'environnement, qui est une conviction à la fois très humaniste, en fait, pour protéger l'homme, et en même temps, un engagement d'aller vraiment voir sur place.
Il est vraiment sensible à cette cause des requins ?
Totalement. Il est sensible, d'une façon générale, à la protection de la planète, mais tout particulièrement des océans. Et ces requins, nous avons été les voir ensemble. C'est quand même un moment tout à fait privilégié. Quand on les voit, on sait qu'il faut les protéger.
C'était où ? C'était en Méditerranée ou vous êtes allé loin pour les protéger ?
On a été dans différents endroits, mais l'an dernier, c'était sur l'archipel des Palau. Alors, c'est en Micronésie, très au large des Philippines, et c'est un endroit remarquable puisque le président des Palau a transformé en fait la zone d'exclusivité économique en sanctuaire pour les requins. Et donc, le prince, dans le cadre de discussions diplomatiques, a voulu aller voir et se rendre sur place. C'est en plus un endroit merveilleux, c'est vrai.
Quelle chance d'aller plonger par là-bas. Comme promis, on va découvrir grâce à vous l'ancêtre des requins. Je disais que c'est l'une des espèces les plus anciennes encore présentes sur Terre. Je voudrais que vous nous décriviez le mégalodon. C'était quoi le mégalodon ?
Le mégalodon, alors ça n'existe plus aujourd'hui, Sidonie, vous pouvez être rassuré.
Moi aussi. J'ai aucune envie de me confronter à un mégalodon.
C'était grand comme 3 ou 4 fois un grand requin blanc, avec des dents qui font facilement une main, et une main très large. Alors, on trouve assez facilement des dents de mégalodon fossilisées. C'est un cadeau qui est très apprécié. Par exemple, on en trouve en Caroline du Nord, il y avait une mer là où il y avait pas mal de mégalodons, mais c'était un requin qui était capable de manger une baleine.
Comment ? De manger une baleine ?
Oui.
J'ai bien entendu.
Ah ben on les préfère en fossiles alors, les mégalodons, c'est très bien.
Effectivement, est-ce qu'on a retrouvé, donc vous parliez des dents, donc c'est ce qui a permis de reconstituer la taille du monstre, ou on a retrouvé d'autres traces ?
Alors, le requin n'a pas de squelette. En fait, c'est un poisson cartilagineux et c'est donc très difficile à garder sous forme de fossile. Alors, quelquefois, dans des circonstances particulières, quand un requin s'échoue, qu'il y a des bactéries qui se reposent sur lui, en fait, c'est la couche de bactéries qui se fossilise à la place du requin. Donc, on a quand même quelques indications sur sa taille, mais c'est vrai que quand on voit la taille des dents, on imagine bien que le mégalodon faisait 20 ou peut-être 30 mètres.
Il était très très fort ce mégalodon. Pourquoi il a disparu finalement ?
Je pense que c'est d'ailleurs la problématique du requin aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est une Formule 1 qu'on est extrêmement résistant. Peut-être que la petite 2 chevaux, elle tient mieux le coup que... Et les requins, c'est indéniablement la Formule 1 des mers. Ça va très vite, c'est un excellent chasseur, mais c'est aussi très fragile. Ça ne se reproduit pas très facilement, ça ne fait pas des centaines, des milliers de petits. Et quand c'est chassé, pêché par l'homme, comme c'est le cas actuellement, les populations s'effondrent.
Alors justement, la reproduction, est-ce que c'est facile à observer des requins qui font des bébés, tiens,
on en a observé, c'est pas facile et on sait pas grand chose. Alors dans les requins, il y a le garçon et il y a aussi la dame, le mâle et la femelle, et ils se reproduisent par accouplement. Alors vous imaginez que c'est pas très facile dans l'eau, donc en fait le mâle requin a 2 organes reproducteurs, un de chaque côté, ça lui facilite un petit peu la tâche pour l'accouplement.
Et j'ai lu aussi qu'il pouvait
je pense au thème d'hier, le Kamasutra. Ça peut donner des idées
à
ceux qui vont aller visiter l'exposition sur le Kamasutra à la Pinacothèque de Paris.
J'ai lu aussi que les requins pouvaient se cloner, mais qu'est-ce que c'est quoi ?
Alors on a observé, donc les requins c'est très particulier parce que le requin est capable, comme un mammifère en fait, de se reproduire en fabriquant le bébé au sein de l'utérus, mais il peut aussi avoir un œuf qu'il garde dans le ventre et qu'il relâche, ou il peut pondre des œufs. Donc les requins de ce côté-là sont très adaptables. Et effectivement, on a observé, notamment en aquarium, des femelles requins qui n'ont jamais connu de mâles et qui ont été capables de se reproduire. Alors on est en train d'étudier ça, effectivement.
C'est un rêve de féministe des années 70, ça.
C'est vrai.
Heureusement, du temps a passé. Merci beaucoup, Robert Calcagno, d'être venu partager avec nous votre passion des requins. Je rappelle que vous publié Requin au-delà du malentendu aux éditions du Rocher, et que le musée océanographique de Monaco propose cette expo sensation autour des requins. Bon retour et bon vent à vous.
Vous écoutez RTL.